On va tout de suite continuer par rapport à ces trois dernières semaines. Le thème d'il y a deux semaines, c'était quoi? Je vais vous faire ça chaque dimanche. Il y a deux semaines, c'était le GPS, vous vous souvenez? Mais le titre, c'était quoi le titre? Oh, t'as du boulot, hein, Élise et Fred. Là. On va faire des ateliers de mémorisation de ce qui se passe dans nos cultes. On a du boulot. Hein. Alors, c'était suivre Jésus. Alors, j'aime bien Josine parce qu'elle résume une prêche en deux mots. C'est beau. C'était, il faut suivre celui qui connaît le chemin. Suivre celui qui connaît le chemin. Et on a compris qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut suivre la bonne personne. Et on a compris que la bonne personne, c'est Jésus. Et donc, papa avait pris ce psaume. Si tu peux nous mettre psaume 139, Marion. Marion est stressée parce que la semaine passée, je l'ai un peu fait galérer avec les versets. Mais ça va aller aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y en a plus. Donc, prépare-toi. Alors, il avait utilisé ce verset. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » D'accord ? Donc, le psalmiste va s'adresser à Dieu directement. Et il lui dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Il reconnaît qu'il peut se tromper, il reconnaît qu'il peut faire une erreur. Et il dit « Seigneur, j'ai besoin, Dieu, j'ai besoin que tu regardes et tu sondes ma vie parce que je ne veux pas me tromper. J'ai pu me tromper, je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui je m'adresse à toi et il ne faut pas que je passe à côté. » Alors, on a commencé avec ça. Et puis ensuite, je vous ai parlé la semaine passée de cette notion de Jésus qui va redistribuer les cartes voilà, il arrive, il commence son ministère et il va redistribuer les cartes. Et je vous ai interpellé sur le moment où il va venir chercher Matthieu. Il vient le chercher au péage, là où il vient cotiser, chercher les impôts. Et puis, rien ne va plus. On a essayé d'approfondir tout ça et on a compris que Jésus vient chercher quelqu'un qui n'est pas qualifié, vient chercher celui qui n'était pas fait pour cette mission, être son disciple, être le disciple de Jésus, le Dieu vivant sur terre. Eh bien, si on avait une liste de candidats, on n'aurait pas choisi Matthieu. Parce que dans le contexte de l'époque, il n'était pas considéré, cet homme-là, c'était un voleur, c'était quelqu'un qui était accepté parce que la loi allait dans son sens. Mais si on avait pu le lapider, on l'aurait lapidé. Voilà. Donc, on comprend que Jésus, là, il va chercher des gens, à nouveau, on le sait très bien, c'est quelque chose qu'on dit souvent, qui ne sont pas forcément qualifiés. Et moi, j'aime cette expression de Reinhard Bonnke qui dit « Toi, t'es le zéro, mais Jésus, c'est le un devant. » Donc imagine, si toi t'es un zéro, plus Jésus ça fait 10, plus toi ça fait 100, et ainsi de suite. Donc c'est Jésus qui nous donne cette valeur ajoutée. Et on l'a vu au moment de la louange, et je réfléchissais à ma prédication là pendant la louange, et je me suis dit, il va falloir que j'improvise, parce que Dieu a parlé, et je vais changer un petit peu de direction, mais toujours sur le même thème. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a déjà parlé. Quand on considère les chants qui ont été chantés, « Je te donne mon cœur ». Moi, j'étais là, rien que ce mot-là, cette phrase-là, ça m'interpelle. Parce que je me dis, « Seigneur, je te donne mon cœur ». Ben, qu'est-ce que ça sous-entend ? Est-ce que mon cœur est à toi aujourd'hui ? Et comme le psalmiste, on crie, on dit, mais Seigneur, regarde mes voies. Est-ce que vraiment ma vie actuellement est en accord avec ce que toi tu désires ? Est-ce que ma vie est en accord avec ce en quoi je crois ? Est-ce que ma vie est en accord ? Et voilà, et on se pose ces questions, on entre dans la méditation, et c'est de la louange, c'est de l'adoration, c'est de dire « Seigneur, je te mets au centre maintenant de ma vie. Peut-être que je ne l'ai pas fait cette semaine, peut-être que je ne l'ai pas fait hier, mais maintenant, je décide de me tourner vers toi. » Et c'est là où c'est beau, parce que quand on lit l'Ancien Testament, c'était la loi, et si tu passais à côté, boum, Dieu jugeait instantanément. Il y a des beaux récits, il y a des récits incroyables, on se dit « Mais purée, Dieu, mais il est un peu cruel. » Et nous, on a Jésus qui est venu. Aujourd'hui, c'est la grâce, c'est la bonté de Dieu. On sait qu'on peut passer par la repentance. Sandy l'a dit. Et c'est qu'en passant par la repentance, c'est la porte d'accès pour toujours revenir à Dieu. On a toujours l'opportunité. On a toujours la possibilité de se rapprocher de lui, de le retrouver et de retrouver cette communion. Alors, on va prendre le verset dans Jean 15, je ne l'avais pas donné la semaine passée, Jean 15, verset 12 à 15. Et on a compris que dans la situation, ce que Jésus va faire, donc c'est Sandy qui m'a dit, mais Alex, t'as dit que Jésus s'était invité chez Matthieu, mais non, c'est lui qui a invité Jésus, et c'est juste. Je lui ai dit, je vais remodifier ça, redonner les choses correctes, mais vous savez, moi, quand je m'emballe, hein. Donc, faut comprendre la pensée parfois. Donc, vous voyez, Matthieu va inviter Jésus et puis il l'invite à sa table. Et on comprend que dans les coutumes à l'époque, on ne mange pas avec n'importe qui. Les Juifs de l'époque, s'ils mangeaient avec quelqu'un, c'était qu'ils consentaient à une amitié avec la personne. Or, un pharisien, comment aurait-il été ami avec quelqu'un qui était pour eux, à leurs yeux, un voleur? Donc, vous voyez, et Jésus vient le chercher lui, et on avait dit, mais Jésus, c'est un provocateur, parce qu'il va faire des choses que les pharisiens ne supportent pas. Maintenant, il va chercher cet homme-là, et en plus, il mange avec lui. Et il fait des miracles, il bénit tout le monde, et puis il respecte rien, il respecte pas nos coutumes. Pour ces gens-là qui étaient vraiment attachés à la loi, attachés aux mœurs de l'époque, c'est terrible. C'est insupportable. Jésus les insupportait. Lui qui connaissait, Jésus le bon juif, qui connaissait tout ça. Mais non, lui, et c'est ce qu'on avait conclu, Jésus était totalement libre. Et dans cette liberté, il fait des choses qu'ils ne comprennent pas. Et voilà qu'il y a des tensions qui arrivent. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est la fête chez Matthieu. Tous ses collègues arrivent. Et là, mais ils lui disent, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu manges avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Autant Jésus les insupportait, autant ils venaient toujours lui poser des questions parce qu'ils voyaient qu'il se passait quelque chose. Ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent avec Jésus. Mais ils vivaient librement. Et je vous avais posé cette question et vous m'avez dit oui. N'avez-vous jamais dérangé quelqu'un seulement avec votre attitude? Parce que vous avez juste tenu ferme une position, une décision que vous avez prise. Vous avez décidé de ne pas tomber dans une corruption peut-être au travail. Vous avez peut-être décidé de ne pas mentir. Peut-être, peu importe, dans votre famille. Et là, les foudres se sont abattues sur vous parce que vous êtes différent. Ça nous est tous déjà arrivé. Tous, à un moment donné. Si on veut suivre Jésus, on sait qu'on doit abandonner des choses. Et c'est là où Jésus, souvent, on interprète charge-toi de ta croix et suis-moi. C'est ça que Jésus veut dire, charge-toi de ta croix et suis-moi. Tu vas vivre des choses que tu n'aurais pas envie de vivre en me suivant. Ça va être dur, tu veux t'attacher à mon nom, tu veux t'attacher à mes enseignements, tu veux vivre comme je te demande de vivre, ce ne sera pas facile sur cette terre. Mais j'ai une myriade de promesses pour toi, mais la réalité, c'est que ce n'est pas facile. Alors, maintenant, charge-toi de ta croix, suis-moi, tu vas vivre des belles choses, mais attention, c'est pas facile. Et c'est là où Jésus, c'est ce que j'aime voir dans les histoires de Jésus, c'est son attitude. Son attitude dérange. Il provoque pas parce qu'il a envie de provoquer, il n'y a pas un esprit de provocation sur Jésus, non. C'est juste parce qu'il vit en homme libre sur cette terre. Il est totalement libre, il est esclave de rien du tout. Ni d'une loi, ni de règles, ni même il va dire à sa mère, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? À un moment donné, il prend position, il dit, mais je suis le Fils de Dieu. Gentiment, hein, il l'aime toujours, il n'y a pas de problème. Mais il prend sa position et il dit, voilà, ce qui se passe maintenant, ça me concerne. C'est moi qui décide. Alors on va lire la suite de notre passage. Donc on s'était arrêté, Tu peux projeter, je vais te dire d'avancer, Marion. Donc, tu peux prendre Matthieu 9, verset 9. On s'est arrêté au 12, il me semble. Et là, ils vont venir le voir. Donc, Jésus est venu chercher Matthieu. Il se retrouve à sa table. Les copains de Matthieu sont là. C'est la fête. Et là, qui vient le voir? On arrive à... voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et là, on comprend le cœur de Christ, son rôle est de venir non pas pour ceux qui ont une vie bien rangée, mais pour venir pour ceux qui sont malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Pour Jésus, il est en train de leur annoncer, pour eux, les sacrifices, ça fait partie de leur culte. C'est rempli de sacrifices. Avant d'aller te laver, avant d'aller manger, tu te laves les mains. Il y a toute une sorte de rituel à suivre. Et pour eux, ça fait partie de leur vie. Et Jésus va dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas votre culte. C'est pas de venir à la messe. C'est pas de suivre un programme. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Et c'est la compassion que vous pouvez avoir pour votre prochain. Ça marche? Donc là, on avait établi le fait que Jésus décide de devenir ami de ces gens-là. Non seulement il vient pour guérir ceux qui en ont besoin, on retrouve le cœur de Christ pour les perdus, mais en même temps, il va manger à leur table. Il vient, c'est pas dans la, quand vous mangiez à l'époque, c'était pas, c'était en famille, et puis c'était le repas, c'était un culte en lui-même. C'était le père de famille qui dirigeait ça. Il y avait toutes sortes de choses. C'était un culte en lui-même. Ça faisait partie de leur façon de vivre la foi à l'époque. Et Jésus, il débarque, il casse tout, c'est lui qui dit, bah maintenant c'est moi le chef, c'est moi qui vais diriger, asseyez-vous à table, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a tout le monde, donc déjà, il n'y a pas que les hommes, on n'est pas dans une enceinte religieuse, on n'est pas à la messe, on ne suit pas un programme, et Jésus explose tout. Et ce qu'on avait dit, c'est que Jésus désire devenir leur ami. Waouh! Alors on aime bien dire dans nos milieux, Jésus, je suis ton serviteur, je veux être ton serviteur, tu es mon maître. Moi, j'aime pas ça. C'est des façons qu'on a de parler, j'aime pas. Pas dans le sens que c'est pas vrai. C'est vrai, Dieu est notre, Jésus est notre maître. Nous sommes ses serviteurs. Moi, je dirais même, nous sommes esclaves de Christ. Mais il faut le prendre du bon côté de la facette. C'est que Jésus, lui, est pas venu chercher des disciples, en fait. Il n'est pas venu chercher des petits moutons qui vont suivre des lois. Il nous montre par son attitude, il explose tout, toutes les règles, il les explose. Il dit, moi je veux la compassion. Il cherche à ce que le royaume de Dieu descende dans le cœur des gens. L'amour, la compassion, voilà cette capacité à manifester des choses qui viennent du ciel et pas de l'homme. Et il dit, toutes ces choses, c'est des choses terrestres, c'est des choses qui vous gardent. Moi ça ne m'intéresse pas. Et Jésus n'est pas venu chercher des disciples, il est venu chercher des amis. Il se met à table et dit, je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu marches avec moi, que tu me comprennes, que tu connaisses mon cœur. Parce que si tu connais mon cœur, tu pourras manifester le Père sur terre. Et c'est ça le rôle de Christ. Alors on aime bien dire on est des serviteurs, et moi j'aime bien le dire aussi. Parce que ici, sur cette terre, on a besoin d'un cadre. On a besoin d'avoir certaines limites, d'avoir une certaine rigueur, qu'on nous dise « fais pas ci, fais pas ça ». C'est bien. Mais si on suit que ça, ça devient du religieux. Et si ça devient du religieux, eh bien, on passe à côté. Jésus, il veut qu'on se connaisse. Et je vous avais dit, vous vous souvenez cette ligne, c'est un équilibre à avoir entre voilà les commandements de Christ. Et puis, Jésus vient me chercher. J'étais une personne, il veut m'amener là. Et sur mon chemin, il va me dépouiller de certaines choses. Voilà, il y a une relation, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste la lettre qu'on lit, fais pas ça, fais pas ça. Il faut qu'il se passe quelque chose en nous. S'il se passe rien, il y a un problème. Ça marche? C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Donc maintenant, on arrive au verset. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alors que nous, les pharisiens, nous jeûnons souvent. Jésus leur répondit, les amis du marié, peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau de drap neuf, car la pièce tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Alors ce qu'on veut retirer de ces deux semaines, c'est on a besoin de choses nouvelles. On n'a pas besoin des choses anciennes. C'est quelque chose qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Mais entre le savoir et le vivre, il y a un monde. Il y a un monde. Et les choses nouvelles, le problème, nous, dans notre conception, c'est qu'on aime bien, on est des bons Français, on aime bien comprendre où on va. Et on a dit, il faut suivre celui qui connaît le chemin, Jésus. Et moi, je vous ai dit, ne détourne pas ton regard de celui qui connaît le chemin, qui est Jésus. Le problème, c'est que Jésus nous dit qu'on doit vivre par la foi. Mais que vivre par la foi, c'est vivre aveugle. Ça devient compliqué, son histoire. Faut que je le suive, mais faut que je ferme les yeux. Mais moi, je suis un bon Français, j'aime bien savoir dans quoi je m'engage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut qu'on me donne des règles, parce que si j'ai pas de règles, je suis perdu. Et si je sais pas ce que je dois faire, je suis pas bien. Et vous voyez, quand on vient à Dieu, au début, c'est comme ça, on sait plus quoi. On nous prêche la grâce, mais en même temps, faut suivre telle règle. C'est bizarre. Ça marche? Et on va faire un petit exemple. Je vais remettre mon masque. On va prendre Julien parce que tu souris. J'aime bien les gens qui sourient. Alors, viens ici. On va faire un exemple. On m'entend toujours? Alors, on nous a fait faire un exercice comme ça. C'était à notre formation pour le pastorat. Alors, moi, je suis Jésus. Ça marche? J'ai un beau Jésus. Jésus habite en moi. Donc, lui, il doit me suivre. D'accord? Alors, tu dois me suivre et je vais te conduire. Donc, c'est moi qui te conduis. Donc, donne-moi ta main. Tu poses ta main comme ça et juste, on ne s'accroche pas. Hein. Vas-y, tu suis. Tu ouvres tes yeux. Il faut me regarder. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est tranquille. Hein. Tout va bien. C'est la belle vie. Jésus, il donne des directions. On va à droite, on va à gauche. Change de boulot, Julien, parce que tu n'es pas content là-bas. Là, il se pose 50 000 questions. Jésus, est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que c'est toi? Choisis une femme. Est-ce que c'est la bonne, Noémie? Vous voyez, il y a toutes ces questions de la vie hein, qui sont là. Et Jésus, il conduit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas fermer tes yeux maintenant. Et là, Jésus dit, maintenant, on va passer un palier. Je veux la pleine confiance. Je veux que tu me donnes ton cœur entièrement. Aie confiance en moi. Arrête de raisonner. C'est bien, pour l'instant, je t'ai prouvé que j'étais Dieu. Je t'ai prouvé que j'étais capable de faire mieux que ce que tu pensais. Tu l'as vu de tes yeux, maintenant ferme tes yeux. Et maintenant, suis-moi différemment. Maintenant, fais-moi confiance. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais pas où tu vas aller. Et là, je sens que son pas, il était un peu plus hésitant. Là, vous voyez, le sol n'est pas droit ici. Hein. Si vous faites attention, il fait attention. Il y a plus de mal à me suivre, c'est un peu plus dur. Et là, vous voyez, Jésus, à un moment donné, il va accélérer. Et là, c'est plus compliqué, hein. Vous voyez, il y a du mal. Il ralentit, Julien. C'est difficile de se laisser conduire. Alors, Julien, c'est compliqué.
Ouais, un peu,
ouais. Regardez, c'est pas facile. Ah, il retient, vous voyez sa main. Merci, Julien. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire que Julien me connaît, hein. Il connaît la salle, il connaît tout. Et pourtant, il est perturbé. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. On veut le suivre. On le dit haut et fort. Mais quand il s'agit d'accélérer, c'est plus compliqué. Hein. Quand Jésus prend notre main, il dit « Mais ferme tes yeux !» C'est plus dur. Merci. C'est plus compliqué. Alors, Julien, c'était facile ?
Non.
T'as senti une différence ?
Ouais.
Ça s'est corsé ?
T'as
cru que t'allais tomber ou pas? Ah, il y avait le doute.
Ouais.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, on va sauter quelques versets. On va aller à l'essentiel. Dieu 30. Alors, on a chanté des belles choses. Et moi, j'aimerais qu'on se pose des questions et qu'on se dise, Seigneur, est-ce que vraiment j'arrive à fermer les yeux et me laisser conduire par toi? Qu'est-ce que ça sous-entend te faire confiance au quotidien? Parce que c'est bien, hein, c'est des belles paroles, mais si au quotidien, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne fonctionne pas. Et on peut en conclure qu'avec tout ce qu'on a vu, je me rebase sur la semaine passée, c'est que Dieu, Jésus, cherche à vivre en nous et à ce que le caractère du royaume de Dieu se manifeste en nous. Il nous aide à nous dépouiller de notre ancienne nature. La Bible nous dit qu'elle est toujours là, mais qu'on est une nouvelle créature. Il y a la notion du nouveau. Et quand tu commences à faire dans ta vie un mélange entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, ça ne marche pas. Ça n'a pas un bon goût, ça n'a pas une bonne odeur pour les gens qui t'entourent. Parce que tu essaies d'être un témoignage, mais là tu as un contre-témoignage. Tu essaies de ne pas mentir, mais là tu flouses un peu. Et là ça pue. Et Jésus n'aime pas ça. Et lui ce qu'il veut, c'est ok, je t'ai libéré de ton passé, je t'ai libéré de tout ça. On est sur le chemin et vous vous souvenez, tu as encore quelques doutes, tu as encore quelques craintes. On va régler ça, mais maintenant je veux que la personne nouvelle arrive. Je veux que tu me fasses confiance. Parce que j'honore la vie que j'ai mis en toi. Et Dieu honore ce qu'il a mis en toi. Il faut imaginer Christ qui est là et qui dit mais je connais tout le potentiel que j'ai mis dans ta vie. Je sais tout ce que je peux faire avec toi. Tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Je ne veux pas juste que tu sois mon serviteur, mais mon ami. Et des fois, il doit nous regarder comme ça et il doit dire mais purée, il n'arrive pas là. Un peu comme Julien, il se retient. Mais Jésus, lui, il connaît le chemin. Nous, on ne le connaît pas, mais on voudrait le connaître. Humainement, on est toujours tenté de dire, mais Seigneur, révèle-moi. Et vous allez faire des semaines de jeûne pour savoir ce que Dieu ne veut pas vous révéler. Donc, vous ne saurez rien, en fait. Dieu vous révélera que ce qu'il veut vous révéler. Il vous dira que ce qu'il a envie de vous dire, que ce qui vous est utile. Même ça, il faut l'accepter, en fait. De dire, Jésus, moi j'ai décidé d'avancer avec toi. Je ne vais pas jeûner 3 semaines pour savoir ça si tu ne veux pas me le dire. Dis-moi ce que j'ai besoin. J'ai besoin de savoir où est ton cœur. Et ce matin, ce qui m'a interpellé dans la louange, c'était, Seigneur, où est ton cœur? Quel est ton cœur? Et ça doit être notre prière. Seigneur, quel est ton cœur pour ma vie aujourd'hui, pour mon travail? Quel est ton cœur pour ma famille, pour mes enfants? Alors, on va lire, vous connaissez cette histoire où Jésus va dire aux pharisiens, il parle à ses disciples et il va dire, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. Ah ben nous, on ne va pas tomber dans le fossé. On a peut-être des doutes des fois parce que les océans se déchaînent. Des fois, il y a un vent qui souffle, c'est terrible. On se dit, mais Seigneur, waouh, c'est la tempête en ce moment dans ma vie. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y en a un qui connaît le chemin et qui habite en toi. Alors à l'époque, le psalmiste, il crie à Dieu. Dieu, regarde mes voies. Mais nous, à qui on peut crier aujourd'hui? Jésus a tout accompli, il nous a libérés, on avance, voilà, on est gracié, sa bonté. Il a exercé sa miséricorde. Alors la miséricorde, c'est avoir pitié d'eux. D'accord, la définition de la miséricorde. Mais pour Dieu, c'est pas cette définition-là. Pour Dieu, c'est être bon envers. Il n'y a pas pitié de nous, Dieu. Il est bon envers nous. Parce qu'il nous aime, parce qu'il sait ce qu'il a mis dans nos cœurs. Et il déverse sa miséricorde sur nous pour qu'on puisse accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Alors on est là et on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire demain? Je t'ai donné mon cœur, la vie continue. En quoi est-ce que tu vas te manifester dans ma vie? Comment tu peux faire les choses? Et à qui on peut s'adresser? Ben, on s'adresse à Jésus. Jésus, t'es là. Jésus, tu vis en moi. Jésus, voilà, la reconnaissance envers Dieu. On est reconnaissance envers Christ. Et ensuite, on va lire ce passage Galates 5, vous connaissez bien. Voici donc, je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Tu ne l'as pas, t'inquiète pas. Voici donc, je vous dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être amis de Christ, réconciliés avec Dieu et conduits par l'Esprit. Amis de Dieu, réconciliés avec Dieu par le moyen, amis avec Christ, réconciliés avec Dieu et conduits par l'Esprit. Alors ça amène cette dernière question, c'est suis-je conduit par l'Esprit? Suis-je conduit par l'Esprit? Alors aujourd'hui, on a une clé, on va lire ce verset, 1 Corinthiens 2, verset 11, si tu peux le projeter, celui-ci. Et ensuite, En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors on va prendre Pascaline et Fred en exemple. Pascaline, ça fait combien de temps que vous êtes mariée? 27 ans de mariage. Un magnifique couple. D'accord? Un témoignage fort. Et qu'est-ce que... Je suis sûr que si je posais la question... Alors, Pascaline, est-ce que Fred, après 27 ans, arrive encore à te cacher des choses? Elle hésite. C'est dangereux. Ah, tu peux sentir les choses, mais s'il a envie de te cacher quelque chose, il pourra te cacher quelque chose. Parce que dans le cœur de l'homme, on décide de dissimuler ce qu'on veut. Moi, je peux cacher des choses à Chanel. Arnaud, il cache beaucoup de choses. Hein. J'ai vu des paquets de bonbons dans ta voiture. Je ne sais pas si ta femme, elle est d'accord avec ça. Hein. Non, c'est une blague. Mais vous voyez, on peut cacher des choses. Même à la personne la plus proche de nous, on est capable de lui cacher des choses. Et ce verset nous dit en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme? Seul moi, je connais mes pensées propres. Le fond de mon cœur. Je sais quels sont mes désirs. Si je me pose quelques questions, parce qu'il y a des gens qui ne se posent pas vraiment de questions. Posez-vous 2-3 questions, vous allez voir que vous allez découvrir quel est l'état de votre cœur. On ne peut pas deviner ce qu'il y a en vous. Vous n'attendez pas à ce que le pasteur se connecte et sache tout sur ta vie. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Seul l'homme connaît vraiment les pensées qu'il y a dans son cœur. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si on suit une loi, si on suit une religion, si on suit des habitudes chrétiennes, tu ne connaîtras pas, ce n'est pas comme ça que tu vas connaître les pensées de Dieu. On a besoin d'être amis avec Christ, de laisser l'Esprit agir en nous. L'Esprit agir en nous, ce n'est pas juste shababa, shababa et faire des arcs-en-ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est Christ, tu es là, tu vis. Saint-Esprit, Jésus, toi, tu es assis là, tu es assis avec le Père, mais le Saint-Esprit, toi, tu agis, tu es l'agent actif de Dieu sur terre. Et là, tu rentres en toi-même, tu te poses des questions, tu fais l'état de ta vie et tu dis, Saint-Esprit, viens faire le ménage, viens souffler la vie. La vie est symbolisée par le souffle. Si je m'arrête de respirer, je meurs. Et c'est le souffle, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit, tout comme l'eau, le feu. Et il vient souffler en nous, ça vient, c'est comme une brise qui vient relever les vieux dossiers, qui dit ça, on va classer, maintenant il faut que tu avances là. Et on a besoin d'être capable d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Alors la semaine passée, la clé c'était, pose-toi la question, donc ça c'est par rapport à ton âme. Quand tu es dans une situation et tu ne sais pas quoi faire, tu dis, tu as vraiment envie de suivre la volonté de Dieu, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu te poses des questions, alors parfois Dieu ne répond pas tout de suite. Mais c'est surtout dire, mais Seigneur, mais Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Le fait de se poser cette question, c'est se rapprocher du caractère de Jésus. Si vous regardez Jésus, il était parfait, il était magnifique. Et puis, il agissait toujours de manière juste. Et c'est dire, Seigneur, dans cette situation, j'aimerais agir selon ta justice. Et qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Quand tu vas te poser cette question, c'est ton âme qui tourne là. Elle tourne ton âme, tu réfléchis. Tu vas lire dans la Bible, tu vas méditer, tu vas chercher des versets. Et même là, tu peux encore te tromper. Parce qu'il suffit que tu te mentes à toi-même et que tu veuilles te conforter dans une idée. Tu vas trouver seulement les versets qui te confortent. Même là, tu peux te tromper. Mais c'est déjà un bon moyen parce que tu cherches une solution. Tu vas dire, mais attends Seigneur, dans cette situation, il faut que ça bouge. Voilà, et tu cherches. Et après, qu'est-ce que tu peux faire? C'est aller voir des gens un petit peu plus matures que toi dans la foi, et tu lui dis, bah, regarde ma situation, qu'est-ce que t'en penses? Et la personne, elle va avoir un regard extérieur. Ça va te permettre concrètement, si vraiment tu fais une erreur, et que la personne vit en vérité, et qu'il y a une transparence et une redevabilité entre vous, de te dire, écoute Joe, là, ça marche pas. Pourquoi je prends Joe? Parce que Joe, c'est un témoignage fort. Je me souviendrai toute ma vie, Joe, c'est quand la première fois que tu es venu ici? C'était il y a combien d'années?
4-5 ans.
Ouais, c'est plus, Joe, plus. Au moins 5 ans. Hein, Josine? Et Joe, il était là, il me raconte sa vie, et puis il me sort des trucs, je dis, mais c'est pas possible, il me dit qu'il est chrétien, machin, ceci, c'est quoi cette vie? Et puis, cet esprit me dit, mais tu vas lui dire ça. Et je lui ai dit des choses, mais des vérités, franchement, ça fait mal. Et Joe, il n'est pas venu pendant quelques mois après ça. Il a dit, purée, celui-là, le responsable des jeunes, là, il ne me plaît pas, celui-là. Parce qu'il a été confronté, il y a une vérité qui l'a supporté. Ce n'est pas moi qui étais méchant. C'est juste que je lui ai dit, Joe, tu me dis que tu es chrétien, mais regarde cette situation-là, ce n'est pas normal. Il faut que tu règles ça. Et Joe, c'est comme Jésus était insupportable pour les pharisiens. Il y a quelque chose qui a réagi en lui, la chair. Elle a dit, mais c'est pas possible. Et ça, c'était le compromis dans sa vie. Et quelques semaines après, j'ai vu Joe revenir. Et Joe, bah Alexis, tu sais vraiment, j'aimerais avancer. Il y a un cheminement qui s'est fait. Il s'est posé des questions. Et là, il y a eu le travail de la parole de Dieu qui a fait son effet. Le Saint-Esprit derrière qui agit. Mais encore là, il aurait pu se tromper. On peut se tromper à tout moment. Et c'est là où on a le Saint-Esprit. Et avec lui, on ne se trompe jamais. Je ne parle pas du Saint-Esprit des sentiments. Hein. Quand tu pries, tu as un petit frisson. Je ne parle pas de ça. Hein. Je ne parle pas de voilà, tes mains qui deviennent moites parce que tu es concentré sur Dieu. Ça, c'est des phénomènes physiologiques. Je parle vraiment de l'Esprit qui nous révèle des choses dans l'intimité. Qui vient et qui frappe à notre porte. Moi, je me souviens, je cherchais un travail. Je vais vous donner un témoignage concret. J'ai rencontré Chanel, j'avais 18 ans. Elle travaillait. Je me suis dit, il faut que je bosse. Hein? J'avais fait une année de médecine et en fait, j'avais prié dans ma chambre, chez mes parents, et j'avais dit, Seigneur, voilà, j'étais dans le compromis total. Total dans ma vie, c'était le compromis, vous imaginez même pas. Il y avait le péché, il y avait tout. Et puis j'ai crié à Dieu. J'ai fait comme le psalmiste. C'était crié à Dieu. Je n'ai pas parlé à Jésus, je n'ai pas parlé au Saint-Esprit. J'ai dit, Dieu, si tu es là, voilà l'état de ma vie aujourd'hui. C'était la repentance. Voilà l'état, je reconnais que ça ne va pas, mais je ne sais pas faire autrement. Je suis esclave de tout ça. Et je pensais à mon avenir. Et je dis à Dieu, je dis, tu vas me laisser faire une année de médecine. Si au bout de cette année, eh bien, si je rate cette année, c'est que tu ne voulais pas que je fasse médecine, il faut une prière bateau comme ça. Si je réussis, c'était que c'était toi. J'ai mis mes conditions à Dieu et tout. Hein. Je lui ai mis mes conditions. Et puis voilà, je lui livre mon cœur, je lui déballe tout, mes fautes, mes faiblesses, et je dis, je vais revenir à toi. À l'époque, Paul et Sandy ne me connaissaient même pas. Je ne venais pas au groupe de jeunes, une fois de temps en temps. Hein? Je disais, j'avais mon excuse de l'année de médecine pour ne pas venir. Parce que ça me saoulait le groupe de jeunes, ils me faisaient étudier des versets qui ne me plaisaient pas. Moi, je voulais qu'ils me fassent étudier les versets qui me plaisent. D'accord? Je voulais pas me confronter à la vérité. Je fuyais la vérité. Et puis, j'avais mon père à la maison, si tu as besoin de Dieu, viens à la réunion de prière. Je dis, bon, lui, je ne peux pas l'éviter, je vais aller à la réunion de prière, ça va lui faire plaisir, et puis hop. Affaire réglée. On recommence la semaine prochaine. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et la semaine, c'était, allez hop, toutes les bêtises. Et voilà. Et puis, vraiment, c'était le début de mon arrivée et je dépose. Donc, je prie comme le psalmiste. Je dis, Dieu, regarde mes voies, regarde ma voie, conduis-moi. Si je me trompe, voilà, je mets mes conditions et tout. Mais si je me trompe, viens me chercher. Et j'ai dit cette phrase. J'ai dit, Seigneur, tu viens me chercher dans un an. Tu viens me chercher. C'était la phrase. Et puis, je commence mon année de médecine, et là, le kiff total. J'aime trop. Et je me monte tout un film, mais si je rate, je vais aller en Roumanie, je vais faire le tirage au sort à Bruxelles, je vais faire ci, je vais faire ça, il faut que j'aille en médecine, parce que j'ai aimé ça, en fait. J'ai aimé ça. Vraiment. Et puis je rencontre Chanel. Et Chanel, elle se convertit ici, la fille, voilà, machin, elle abandonne tout, vram, boum, boum. Son frère, là, regardez son frère avec sa casquette, il est beau. C'est Edouard, il était écœuré. Lui, il a dit, moi, jamais je me convertirai comme ma sœur. Il a été brutalisé par la conversion de Chanel, le pauvre, il en avait des suées. Il savait qu'il devait venir à Jésus, mais il disait, pas comme ma sœur, c'est trop fou. C'était vraiment comme ça, parce qu'à nouveau, c'était radical. Et moi, elle me confronte, Chanel. Parce que je vois qu'elle fait des choses qui, moi, enfant de chrétien, j'ai jamais fait. Parce que je vivais dans le compromis. Et j'ai eu ma repentance. Vraiment, Dieu m'a touché. Le Saint-Esprit m'a touché. Je vous passe les détails. Et arrive le moment où, comme elle travaillait, que moi, j'étais étudiant, on n'avait pas les mêmes réalités. Vous vous mariez, vous n'avez pas les mêmes réalités. C'est compliqué à gérer. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot où, en même temps, je vais gagner un peu de sous. Et puis, je vais les études, mais en même temps, le boulot. Comme ça, on est dans la même réalité de vie. C'est important, ces choses-là. Et donc, je fais toutes les démarches qu'il faut. Je me suis dit, je suis pas bête. Je vais faire conducteur de chantier, un peu d'études, machin, ceci. Et puis, j'ai eu tous les plus gros pistons du monde. Rien ne s'est ouvert. Alors que j'avais vraiment des portes qui s'ouvraient, mais tout se refermait. Et là, je me suis fâché une deuxième fois. C'était la deuxième prière qui a percé le plafond, j'étais à l'Oasis, là-bas, et j'ai crié, je pleurais, mais je dis, Seigneur, j'ai 19 ans, je sais pas ce que je vais faire demain. Et en fait, Dieu était en train de raboter mon orgueil. Parce qu'on vous conditionne. On vous conditionne études supérieures, machin, tu vas être quelqu'un, t'auras un titre. C'est comme ça. Et ça faisait écho à ce que je vous ai dit la semaine passée. Au fait que j'avais vu mes parents donner beaucoup de choses, et je me suis dit, je vais pas me construire comme ça, moi je veux réussir ma vie. Et vous voyez comment Satan utilise les choses pour vous mettre dans une sorte de toile, vous avez l'impression que vous pouvez plus vous en sortir. Et là, Dieu a raboté, il m'a raboté, je dis raboté parce que je suis menuisier. Quand vous enlevez une belle couche de bois, je peux vous dire que vous l'enlevez. C'est pas un petit ponçage, c'est un rabotage. Et puis c'était pas facile. Et là, je dis, ok Seigneur, j'abandonne. C'est le moment où j'ai abandonné. Et c'est là où je vous ai dit, c'est la nouvelle nature. J'avais envie d'avancer avec Dieu, avec tout ce que j'étais, avec tout mon passé. Et là, Dieu me dit, ben non, en fait, faut que t'abandonnes. Faut que t'abandonnes ça, j'en veux pas avec moi. Et là, j'ai pleuré, c'était dur, c'était une repentance encore. Et je dis, Seigneur, j'abandonne toute ma conception, toute ma philosophie, tout ce que je pense. Fais ce que tu veux. Et j'ai mis sur un papier, Seigneur, le travail, si tu veux que j'aille travailler au McDonald's ou si tu veux que je fasse un doctorat. Vous voyez, pour moi, j'avais mis les deux extrêmes. Et j'ai dit, je serais prêt à faire les sacrifices pour faire des études, tout comme je serais prêt à tout abandonner si tu veux que je fasse un simple métier. Quand je dis simple, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il ne nécessite pas d'études, parce que c'était cet orgueil-là. Mais c'était un vrai abandon. J'ai mis la feuille, je dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Et on devait partir en vacances. Et là, c'est là où le Saint-Esprit m'a parlé je vais pas dire pour la première fois, mais de manière très concrète, c'était vraiment le Saint-Esprit. J'ai eu cette voix dans mon cœur. C'est comme si le temps s'arrêtait et qu'il me dit, arrête maintenant. T'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi en septembre. Et on devait partir en vacances. On était juin. Et en juillet, on voulait partir. Mais moi, je voulais pas partir tant que je savais pas ce que je faisais en septembre. Et là, une conviction, une paix qui vient en moi, qui me remplit. Ok Seigneur, je sens que je suis sur la bonne voie. Et là, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti en vacances. Et là, vous vous souvenez du pasteur Fred Albrecht? Vous vous souvenez de lui? On faisait les travaux à l'Oasis. Donc moi, j'avais été embauché par l'église pour faire les travaux. Et Fred, il vient me voir et il me dit, tu sais, je connais un menuisier qui, voilà, il fait de la menuiserie, il cherche personne, mais bon, ça pourrait t'intéresser. Ben, je dis ouais. Le 10 septembre, je suis devant sa porte. J'arrive devant la porte. Toutes les portes étaient fermées. Il cherchait personne. L'école en Belgique ne voulait pas de moi. J'ai entendu la secrétaire qui m'insultait parce qu'elle ne supportait pas mes papiers. Elle ne savait pas les gérer. Elle était stressée. Ça ne lui allait pas. Donc voilà, là, il n'y avait aucune porte d'ouverte. Et puis là, j'arrive devant l'atelier de Vincent, pour ceux qui le connaissent. Je mets ma main sur la porte et le Saint-Esprit me dit, c'est là que tu vas travailler. Comme ça. Et là, je prends une claque. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est là que tu vas travailler. Je fais le tour de l'atelier. Il ne me promet rien. Il ne cherche personne. Et puis, une semaine plus tard, j'étais embauché chez lui. C'était le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans le monde actuel, on ne peut pas se permettre de mettre l'Esprit de Dieu de côté. Il y a trop de choses. On fait face à trop de choses. Là, je vous parle de ma vie personnelle. Mais on fait face à trop de choses. Aujourd'hui, le monde évolue. On ne sait plus dissocier le bien du mal. Il y a des mélanges dans tous les sens, même dans les milieux chrétiens. On ne peut plus se permettre de mettre de côté le Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Alors, je sais que ça peut... À chaque fois... Sachez-le, à chaque fois qu'on prêche sur l'Esprit de Dieu, ça dérange. Et si tu te sens dérangé, c'est un bon signe. Juste ne te révolte pas, en fait. Ne te rebelle pas. Mais tu dis, Saint-Esprit, s'il manque quelque chose, si je t'ai laissé de côté à un moment donné, si je ne t'ai pas écouté, ben je veux cette relation avec toi. Jésus, je t'ai rencontré, tu as changé ma vie, tu l'as transformé très bien. Mais tu m'ouvres des portes maintenant. Maintenant, je veux travailler avec toi, Christ, et avec le Saint-Esprit qui vient souffler dans mes voiles. Parce que sinon, c'est plat, hein? C'est plat. Hein? Et là, Dieu va vous révéler des choses pour votre vie particulière. Vous n'allez pas juste suivre des règles et des machins et des ceci. Chaque vie est différente, chaque vie est particulière et Dieu veut vous parler particulièrement. Et ensuite, il va vous utiliser de la même manière pour les autres. Vous allez être une bénédiction pour les autres. Mais d'abord, avec le Saint-Esprit, on apprend dans notre propre vie. Avant d'être une bénédiction pour les autres. Parce que là, on se rend compte, ah tiens, là, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Moi, aujourd'hui, après 10 ans, je sais dire, là, c'était Christ, là, c'était Dieu, là, c'était le Saint-Esprit. Alors avant, je disais, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, là, c'était pas Dieu. Là, c'était pas le Saint-Esprit. C'était le cœur du Père qui s'est révélé à moi. C'est toujours par le Saint-Esprit. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on a une relation à construire, là, avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça marche? Donc Jésus était la Trinité en lui-même. Quand il était sur terre, c'était l'homme. Mais il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était prophète, il était sacrificateur, il était tout ce que vous voulez. Il est le Sauveur, il est le Messie. Très bien. Alléluia, on l'a accepté. Mais maintenant, Saint-Esprit, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Davantage. Et ma mère a commencé ce matin, elle a dit, nous sommes le miracle de Dieu. Et elle a posé cette question, il y a eu quoi comme miracle dans ta vie aujourd'hui? À nouveau, chassez votre conception de miracle, les paillettes et tout ça. Il y a des petites choses. Dieu va faire des miracles dans des choses qui, pour Fred, ce ne sera pas un miracle dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais lui raconter, il va dire, ouais, c'est normal. C'est Dieu. Moi, je vais dire, mais non, c'est un miracle. Lui va me raconter un truc. C'était peut-être normal pour moi. Mais pour lui, c'est un miracle. Il y a ces miracles-là. Mais après, il y a toute une myriade de miracles. D'accord? Mettez pas un standing à vos miracles. Seigneur, moi, tu comprends, c'est que les guérisons de paralytiques. Le reste, j'en veux pas. Ça marche pas! Il faut tout vivre!